Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Noëlla Luzitu Kabambi.
Lutte contre le banditisme dans la ville de Goma au Nord Kivu à travers l'opération dénommée Safisha Mujiwa Goma. Ce week-end, des bandes des présumés criminels ont été présentées à la presse par le maire policier de Goma et par les responsables de la 34e région militaire. Sami Badibanga retire sa candidature des élections sénatoriales de ce lundi à Mbujimayi au Kasaï oriental. Il l'a dit dans un communiqué publié samedi à Kinshasa. L'autorité morale des progressistes et anciens premiers ministres dénonce la corruption et l'instrumentalisation des députés provinciaux par leur parti. Didi Manara, deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, est l'invité de ce journal. Il confirme la tenue ce lundi des élections des gouverneurs, des provinces et des sénateurs et parle aussi des exceptions de ces scrutins pour certaines provinces. Bonjour à tous. Au Nord Kivu, les autorités policières et militaires mettent les bouchées doubles pour venir à bout du banditisme dans la ville de Goma. Des retombées positives de l'opération Safisha Mujiwa Goma commencent à être enregistrées. Ce week-end, des bandes des présumés criminels ont été présentées à la presse, respectivement par le maire policier de Goma et par les responsables de la 34e région militaire. Chris Mukande.
Nous devons tous contribuer verticalement et horizontalement à l'instauration de la sécurité de notre ville. Partout, les gens doivent avoir un œil regardant, car l'ennemi change de gouvernail pour insécuriser la population. Tels sont en substance les propos du maire policier de Goma, le commissaire supérieur principal Kapen Kamand Faustin, alors qu'il présentait cette énième vague d'individus qui seraient responsables du climat d'insécurité au sein de la population. Pour lui, dans l'esprit du concept Safisha Mujiwa Goma, la quête de la sécurité ne devrait plus demeurer une tâche exclusive au service officiellement attitré. Ainsi, avec la collaboration de quelques citoyens, en l'espace d'une semaine, 4 groupes d'inciviques ont pu être rattrapés. Au nombre de ces individus, au total 17, un policier, 7 soldats, 2 éléments de volontaires pour la défense de la patrie et 7 civils. D'autre part, et concomitamment, à la 34e région militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko présentait des présumés bandits, des fournisseurs de chanvre au M23 et des personnes accusées d'avoir injecté des faux billets de dollars américains sur le marché de la province du Nord Kivu.
Nous demandons à la population d'être vigilante et de dénoncer tout suspect par rapport à ce genre de comportement qui doit être puni conformément aux lois du pays.
Goma, Chris Mukande, Radio Kapi.
Une équipe de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, est attendue le mardi 30 avril dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba pour une enquête sur le terrain en rapport avec l'utilisation des enfants dans les mines du cobalt. Cette équipe devra palper les acquis et réalisations du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et des jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, Pabea Cobalt, un projet du gouvernement de la RDC financé par la Banque africaine de développement, BAD. Avant cette descente sur le terrain, une séance de travail a été organisée le samedi 28 avril au siège du projet à Kinshasa. Le professeur Eale Bosela Ekakol, commissaire national aux droits de l'homme, en charge des droits socio-économiques et culturels au sein de la CNDH, en parle au micro de Jean-Marc Matwaki.
Nous avons reçu beaucoup d'informations au sujet de la présence des enfants dans les mines, avec des chiffres exorbitants. Faire travailler les enfants dans les chaînes de production, d'exploitation des mines, c'est une violation des droits de l'homme. Nous, étant conseillers du gouvernement, la CNDH, nous ne pouvons pas être indifférents de cela. Nous sommes dit qu'il faut aller sur le terrain et vérifier la situation. Et Pabea Cobalt étant un mécanisme que l'État a mis sur place pour qu'on éradique ce phénomène, nous sommes dit qu'il faut les voir parce qu'ils sont déjà là, ils font le travail. Ils sont à quel niveau? Il faudrait que nous échangions avec eux, mais aussi que nous descendions sur le terrain et voir un peu les auteurs des violations des droits de l'homme, auteurs physiques et moraux, et voir un peu ce qui pourra s'en suivre après que nous soyons descendus sur le terrain. Et Pabea Cobalt était bien approprié parce qu'ils sont déjà là. C'est un mécanisme de l'État. Nous étions très contents de changer avec le ministre des Affaires sociales qui est à la tête de ce comité de pilotage.
Pour sa part, la coordonnatrice de l'unité de coordination de ce projet et directrice générale du Fonds national de promotion et des services sociaux, Maître Alice Miri Mokabeti, salue cette implication de la CNDH tout en préconisant la mise en place d'un mécanisme de surveillance et d'alerte contre l'utilisation des enfants dans les mines. Dans le chapitre de la justice, notez qu'un dossier à charge du cardinal Fridolin Ambongo est ouvert au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Le procureur général près la cour de cassation ordonne au procureur général près la cour d'appel de Matete d'enquêter sur ce qu'il qualifie de comportement séditieux entraînant des faits infractionnels contre l'archevêque de Kinshasa. Jeff Ngoy.
Par sa lettre du 27 avril, Firmin Vonde acquise l'archevêque catholique de violenter délibérément les consciences et de trouver un plaisir à travers la propagation des faux bruits et incitation des populations à la révolte contre les institutions établies et attentats contre les vies humaines. Selon le procureur général, au moment où le pays fait face à la guerre dans sa partie orientale, il s'observe dans les comportements du prélat une constance des propos séditieux tenus lors de points de presse, interviews et sermons de nature à décourager les militaires des FRDC qui combattent au front, mais aussi incitatifs à la maltraitance par les rebelles et autres envahisseurs des populations locales déjà meurtries par autant d'armées de déstabilisation. Invité à son office le 25 avril pour un échange autour de certains dossiers en instruction, Ambongo a décliné l'invitation, peut-on lire dans la lettre du procureur. Pour tous ces faits répréhensibles, le parquet général après la cour de Matete ouvre donc une information judiciaire contre le cardinal.
Et puis une autre information judiciaire, c'est celle ouverte par le parquet général près la cour de cassation à charge des ministres des Finances Nicolas Kazadi, celui du Développement Rural François Robota ainsi que Guy Mikoulou. Selon le parquet, c'est en rapport avec l'affaire du détournement présumé des fonds destinés au forage des puits d'eau. Dans le but d'empêcher que les trois personnes accusées de détournement des deniers publics ne puissent se soustraire des poursuites judiciaires engagées contre elles, le procureur général Firmin Vondé enjoint depuis le 27 avril à la Direction générale de migration d'instruire tous ses services œuvrant au poste frontalier à interdire ces personnes de sortir du pays et de Kinshasa où elles sont tenues de répondre devant l'organe de la loi. L'ancien Premier ministre Sami Badibanga retire sa candidature des élections sénatoriales qui auront lieu ce lundi. Cette décision est contenue dans un communiqué qu'il a rendu public samedi à Kinshasa. L'autorité morale des progressistes et candidats sénateurs dans la province du Kasaï oriental dénonce la corruption et l'instrumentalisation des députés provinciaux par leur parti. Ces derniers, affirme-t-il, ne sont plus libres de leur choix. Depuis Mbujimayi, Esther Ndalafina.
Dans sa déclaration, l'ancien Premier ministre montre son attachement et son engagement aux valeurs démocratiques. Sami Badibanga évoque les failles du processus électoral actuel qui semble enclin, je cite, à la corruption et à d'autres pratiques illégales contrairement aux élections justes et transparentes. Ce n'est pas tout. Il dénonce également les manœuvres des partis et regroupements politiques tendant à contraindre les députés provinciaux à voter pour tel ou tel autre candidat. Ceci entrave, dit-il, la liberté de conscience et leur capacité à représenter dignement les intérêts du peuple. L'ancien Premier ministre dénonce aussi dans la foulée ses inquiétudes par rapport à la crédibilité, l'impartialité et l'indépendance de la Cour constitutionnelle. La révision des arrêts publiés récemment par la Haute Cour, en violation de l'article 168 de la Constitution, émet des doutes sur la crédibilité et le bon fonctionnement de cette instance judiciaire décrié par l'opinion publique. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Et justement, à propos de ces élections des sénateurs et des gouverneurs, dans 20 provinces de la RDC, notez que la Commission électorale nationale indépendante CENI est revenue sur les dispositions pratiques pour leur bon déroulement. Chaque secrétaire exécutif provincial de la CENI et l'Assemblée provinciale s'accordent sur les lieux du déroulement de vote, qui peut être soit le siège provincial de la CENI, soit les installations de l'organe délibérant Blaise Chindani.
Dans ce communiqué, la CENI précise, le bureau de vote ouvre à 9h et ce, après la tenue de la session de l'Assemblée provinciale pour la vérification du quorum. Un procès verbal de constat du quorum est transmis au représentant du secrétariat exécutif provincial de la CENI. Celui-ci fait office du président du bureau de vote et de dépouillement. Les deux tiers des membres au moins qui composent l'Assemblée provinciale devront être présents et l'élection qui est au suffrage indirect s'est faite au scrutin secret majoritaire à deux tours. Mais au cas où le quorum n'est pas atteint, l'article 169 de la loi électorale stipule que l'Assemblée provinciale s'est réunie dans les deux jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. D'après la CENI, l'ensemble des opérations de vote et de dépouillement ne peut durer que 5 heures du temps. Les députés provinciaux qui se trouvent dans l'impossibilité d'effectuer seul le vote a le droit de se faire assister par toute personne de son choix ayant également la qualité d'électeur, c'est-à-dire son collègue député provincial. Ce dernier ne peut en aucun cas communiquer les choix opérés par celui-ci. Après le vote, intervient directement la publication des résultats et le procès-verbal des opérations conformes au modèle de la CENI est dressé séance tenante en 4 exemplaires avec la signature des membres du bureau de vote et des dépouillements ainsi que des témoins présents.
À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, quelques habitants interrogés par Radio Okapi appellent les députés provinciaux à voter utile en tenant compte des attentes de la population et non de leurs propres intérêts. Grâce à Mzati.
Après un week-end mouvementé au centre-ville de Lubumbashi par la campagne électorale des candidats gouverneurs et sénateurs, marquée notamment par des manifestations publiques et les auditions des candidats à l'Assemblée provinciale, les Louchois s'impatientent de connaître leurs nouveaux dirigeants. Certains interrogés disent avoir besoin d'un gouverneur capable d'améliorer le social de la population, mais aussi des sénateurs qui vont bien défendre des lois à l'intérêt du peuple, d'où cet appel aux députés provinciaux.
Tout ce que le peuple attend en retour, c'est un développement. Je dirais aux députés de ne pas voter par complaisance ou par appartenance politique. Il faut voter une personne qui a des idées de développement de la province. Si aujourd'hui notre pays se retrouve en recul en matière de développement, c'est parce que nous ne votons pas par rapport au patriotisme, mais nous votons par rapport au sentiment. On veut voter nos proches.
Un gouverneur sérieux qui se sert pas en premier, qui travaille pour les autres. Être chef, c'est servir les autres. Servir les autres comprend les attentes de sa population. Ce sont des députés sérieux qui cherchent aussi des gens sérieux qui vont être comme gouverneur, gouverner les autres.
Notons que 16 candidats gouverneurs, dont 8 femmes, sont en lice et pour l'élection des sénateurs, 36 candidats, dont 9 femmes, sont dans la bataille pour 4 sièges dans la province du Haut-Katanga. Lubumbashi, Grâce Amzati, Radio Kapi.
Dans le Grand Équateur, ce sont 3 des 5 provinces qui sont concernées par les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs. Partout à la Mongala, au sud Ubangi et à la Chuapa, le décor est déjà planté. La CENI y a déjà amené la logistique nécessaire et le personnel est prêt pour le bon déroulement des scrutins. Mais ces scrutins sont reportés au 8 mai à l'Équateur à cause de la non-installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Les élections dans le nord Ubangi auront lieu, elles, au mois de juin, en attendant les députations nationales et provinciales pour les territoires de Yakoma. Retour sur l'ambiance préélectorale dans les 3 provinces concernées avec notre correspondant régional, Paul Richard Malengela.
D'abord, à l'Isala dans le Mongala, a indiqué le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Norbert Mandima, tout s'est passé dans le respect des consignes de campagne devant les députés provinciaux. Des 5 candidats qui convoitent le gouvernorat, il y a notamment l'ancien vice-gouverneur Serge Mongoulou. Mais un candidat sénateur Mbotama s'est désisté sur le 38 en lice. C'est à la suite du mot d'ordre de son parti du DPS, a-t-il dit. À Gemina, dans le sud Ubangi, outre devant les députés provinciaux, les 6 candidats gouverneurs ont également défendu leur projet de société devant le conseil provincial de la jeunesse. Parmi eux, le gouverneur sortant Jean-Claude Mabenzé. Mais la mission nationale de la CENI est déjà en place avec la logistique requise. Ce dimanche, un briefing a eu lieu pour familiariser les grands électeurs à ce scrutin jumelé, mais aussi avec les autorités sécuritaires de la province, a dit le CEP Bézard Libéké. Enfin, la même ambiance sereine est observée à Boindé dans la Chuapa. Confirmation de la CEP Clarisse Wongola.
Nous croyons que demain ça sera, ça va se passer dans les termes. Oui, la campagne s'est bien déroulée, c'était fini hier à 0h. Notre côté aussi, nous sommes prêts. Nos missionnaires sont déjà là, le matériel, tout est fait déjà. Donc, nous aurons un travail avec les élus provinciaux pour essayer de leur montrer comment manipuler les machines.
Bon, d'accord, prochain Malengela, Radio Okapi.
En plus bref, les travaux de reconstruction du pont Kibali ont été lancés cette semaine par l'administrateur du territoire de Ouata dans la province du Haut-Ouélé. C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives et coutumières. Ce pont jeté sur la rivière Kibali s'était effondré il y a 2 mois. Il est d'une importance économique capitale. Il relie sur la route nationale numéro 26 la cité minière de Dourba à Ouata, chef-lieu du territoire du même nom.
Actualité internationale.
Ce lundi 29 avril, plus de 4 millions de Togolais sont attendus aux urnes pour choisir leurs nouveaux députés et conseillers régionaux. Plus de 14 000 bureaux de vote seront ouverts par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le pays fait face à un double scrutin longtemps attendu et reporté à plusieurs reprises. Cependant, ces élections se déroulent sous l'ombre d'une réforme constitutionnelle controversée adoptée le 19 avril dernier. Cette réforme marque une transition notable, faisant passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire.
L'invité.
Vous le savez déjà, les élections des gouverneurs des provinces et des sénateurs se tiennent aujourd'hui à partir des 9h à travers la RDC. Information confirmée par le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en exclusivité sur Radio Okapi. Cependant, Didi Manara précise qu'il y a des exceptions pour certaines provinces. On l'écoute dans cet entretien avec Guy Maté.
Bonjour Monsieur Didi Manara.
Bonjour Monsieur Guy Maté, je salue les nombreux auditeurs de la Radio Okapi.
Est-ce que vous confirmez qu'aujourd'hui, lundi 29 avril 2024, dans quelques heures donc, il va se tenir les élections des gouverneurs des provinces et des sénateurs à travers la RDC?
Affirmatif. Aujourd'hui, il y aura élection dans pratiquement toutes les provinces du pays, les élections indirectes des gouverneurs et vice-gouverneurs, ainsi que les élections des sénateurs. Cependant, il y a quelques exceptions dans quelques provinces qui posent encore problème.
Et quelles sont ces provinces?
Je commence par la province de l'Équateur. En principe, dans cette province, on devait organiser les élections aujourd'hui aussi, mais c'est reporté. Le report de ces élections des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, ces élections sont reportées au 7 mai. Dans la province du Kwilu et de Nord-Ubangi, les élections des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs auront lieu après la tenue des élections dans quelques territoires qui ont posé problème. Par exemple, au Kwilu, nous avions annulé les élections dans la circonscription électorale de Massimanimba. Vous voyez qu'il n'y a pas de députés provinciaux. Or, pour l'inclusion, il faut que tout le monde soit là pour que dans cette province, nous ayons nos sénateurs, nos gouverneurs et nos vice-gouverneurs. Mais également, dans la province du Nord-Ubangi, nous avons également annulé les élections à Yakoma. C'est pour la même raison d'absence d'inclusion que nous n'allons pas organiser les élections dans ces deux provinces-là. En Ituri, il y a report de l'élection des sénateurs au 8 mai. Nous allons organiser les élections des sénateurs au 8 mai. Dans le Maïndombe, il y a report des élections sénatoriales. C'est que le BRTC a ouvert un peu en retard. C'est pourquoi nous allons réorganiser ces élections-là au 26 mai, dans le Maïndombe, au 26 mai. Pour le Nord Kivu, nous avons dit que pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, ça n'aura pas lieu parce qu'ils sont en état de siège. Mais par contre, l'élection des sénateurs aura bel et bien lieu.
C'est lundi?
Aujourd'hui lundi, bien sûr.
Est-ce que les dispositifs de vote sont déjà disponibles à l'intérieur des assemblées provinciales parce que ça fait office des bureaux de vote? Est-ce que ces dispositifs de vote sont déjà disponibles et prêts à être utilisés?
Affirmatif. Affirmatif. Ce sont nos experts, les experts de la CENI, donc les agents de la CENI qui ont amené ces dispositifs électroniques de vote là-bas, ainsi que tout l'arsenal, tout le matériel nécessaire pour le vote. Donc, tout est fin prêt. Les agents sont là. Nos démembrements de secrétariats exécutifs provinciaux sont sur place et ils vont bel et bien diriger ces élections dans toutes les provinces, excepté celles qui viennent d'être citées.
Mais est-ce que les témoins des candidats auront aussi la possibilité d'accéder aux endroits où vont se tenir ces élections?
Oui, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que les témoins, d'abord, il faut qu'ils soient électeurs. Donc, les témoins ne doivent être qu'un député provincial. C'est ce que la loi dispose. Donc, ce n'est pas les membres des partis politiques qui viennent dans la salle pour dire seulement le témoin, non. Pour être témoin, il faut avoir la qualité d'électeur. C'est la loi.
Et donc, il n'y aura pas des gens qui vont constater si les votes s'est bien déroulé ou pas?
Il y aura des observateurs, ça peut être des journalistes, ça peut être... D'ailleurs, les journalistes ont eu déjà leurs accréditations. Ils seront là dans la salle.
Et quel mécanisme la CENI a-t-elle mis en place pour décourager toute éventuelle fraude, toute éventuelle manipulation des résultats ou tout acte de corruption? Il y a cette vidéo qui circule depuis hier sur les réseaux sociaux où on voit des personnes présentées comme des députés provinciaux en train de recevoir des enveloppes de la part d'un candidat gouverneur. On dit qu'il s'agit de la ville de Kinshasa. Et qu'est-ce que la CENI compte faire par rapport à ces cas précis?
Ok, merci beaucoup. Vous savez que la corruption est une très très grosse antivaleur qui ronge notre pays. Donc c'est vraiment un combat de tout le monde. Mais ici spécialement, par rapport aux élections, la CENI a dû arrêter quand même certaines dispositions pratiques, mais qui relèvent également de la loi. Donc la loi prévoit que, par exemple, le port de téléphone, dans nos mesures d'application, il est strictement interdit de porter le téléphone devant l'urne ou même devant le dispositif électronique de vote.
Est-ce que c'est aujourd'hui, lundi 29 avril, que la CENI va publier les résultats provisoires de ces élections?
Affirmatif. C'est aujourd'hui même au soir, après examen par l'Assemblée plénière, que nous allons publier les résultats provisoires.
Docteur Didi Manara, merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie, Guy Maté.